RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct de Marseille. Première escale de notre tournée spéciale municipale. Nous avons choisi Marseille pour démarrer cette tournée. Nous sommes au Palais de la Bourse, très bien accueillis dans ce lieu magnifique, à quelques pas du Vieux-Port. Et avec vous, les Marseillais venus écouter les grandes gueules jusqu'à midi, écouter et regarder, puisque vous le savez, on est diffusé en simultané sur BFM Marseille ce matin. Donc RMC Story, BFM Marseille, RMC partout pour débattre de l'actualité. Pour parler des municipales, à Marseille notamment, tout à l'heure, on se posera la question: est-ce que le Rassemblement National peut gagner la ville? Il y a un sondage publié ce matin par nos confrères La Provence, d'ailleurs son directeur sera avec nous tout à l'heure pour en parler, qui montre que rien n'est joué entre les candidats, que le match va surtout se jouer entre Benoît Payan, le maire sortant de Marseille, et Franck Alizio, le candidat RN. Qui peut l'emporter? Quels sont l'état des forces en présence? On est à moins d'un mois maintenant du premier tour, donc on fera tout ça, on fera le point tout à l'heure aux alentours de 10h40. Mais avant cela, avec Abel Boyi, Laura Varton, Martinez et Antoine Diers, je voudrais qu'on s'intéresse à l'un des sujets de préoccupation numéro un pour ces municipales, c'est la sécurité.
Marseille
bébé. Ah, ils ont voulu faire partir un truc là, Marseille
bébé. Ouais,
on était chaud, là,
on va devoir le faire a cappella du coup, Olivier, oui. Vas-y, tu lances.
Marseille bébé.
Ouais. Non, regarde, tu fais un truc tout simple. C'est pas la capitale!
Ah. Ben voilà, allez, on va un peu chauffer l'ambiance dans cette grande salle. Nique tes morts sur le Vieux-Port. Ça, c'est de la poésie.
Ah oui.
Ça, je vais te dire.
Une culture et d'histoire.
Bien entendu. Alors, nique tes morts sur le Vieux-Port, c'est peut-être aussi ce que voudraient des Marseillais, parce que la sécurité, c'est pas seulement la préoccupation à Marseille, c'est la préoccupation dans toutes les villes, notamment les grandes villes. Je voyais d'ailleurs les candidats ici à Marseille, ils sont tous sur le thème de la sécurité, même la gauche, c'est plus un tabou, la sécurité à gauche. Benoît Payan d'ailleurs dit, moi j'ai augmenté le nombre de policiers municipaux, le nombre de caméras de vidéosurveillance. Il y a encore un débat sur faut-il oui ou non armer la police municipale, mais on voit bien comme que tous les maires font à peu près la même chose. Comment expliquez-vous que la sécurité soit devenue le sujet numéro un de préoccupation dans nos villes et qu'on demande aux maires d'être un shérif aussi, en fait, Antoine Diers?
Alors, moi je vais parler en tant qu'ancien directeur de cabinet de maire, y compris en banlieue parisienne, où le sujet de la sécurité était essentiel. Certains maires qui ne veulent pas s'attaquer à ce sujet te disent tout de suite, Olivier, ah non, mais ça c'est la responsabilité de l'État.
Ce qui est vrai.
Mais non, c'est pas vrai.
Non, mais c'est-à-dire en premier, c'est une mission régalienne. C'est une mission d'État.
Enfin, le maire a une police administrative générale. Le maire a la responsabilité, par le Code général des collectivités territoriales, de l'ordre public dans sa ville. Il n'a évidemment pas tout ce qui est police judiciaire, il n'a évidemment pas tout ce qui est répression pénale, mais il a une responsabilité sur l'ordre public dans ses rues. Et donc, il peut assurer la sécurité, l'ordre public dans ses rues.
Mais par exemple, c'est pas la police municipale qui va démanteler les gangs de narcotrafic.
Mais c'est bien ce que je te dis, pas de police judiciaire. Il n'y a pas d'enquête. En revanche, l'ordre public, la sécurité publique, comme la salubrité dans les rues, c'est une compétence du maire. Donc déjà, moi, je veux dire à tous ces maires qui disent « Ah, c'est pas moi, c'est l'État ». Non, la responsabilité est partagée et on a développé dans les dernières années une logique de continuum de sécurité. Et donc, tout le monde doit prendre sa part. Et donc, les maires doivent prendre leur part avec une police municipale dans la sécurité. Ensuite, les polices municipales, elles ont plus de pouvoir qu'on imagine. C'est pas que mettre des PV. Moi j'ai vu des systèmes de vidéosurveillance très performants, qui permettent de venir en aide aux gens. On devrait autoriser bientôt l'utilisation de l'IA dans les systèmes de vidéosurveillance. J'en parlais il y a 10 ans, que l'IA détecte les situations à l'image, les situations de danger pour les gens. Et donc, je comprends que les Français disent « Oui, c'est urgent. La sécurité, je discutais avec des Marseillais, oui, c'est urgent. » Moi, j'ai fait le touriste hier à Marseille, j'ai vu des trucs très beaux. Hier soir, quand on s'est promené dans des petites rues, on était moins à l'aise. Faut le dire de manière très claire. Donc la sécurité, c'est le droit le plus fondamental des gens, pouvoir vivre en sécurité. Et donc les maires doivent le faire. Je n'imagine pas qu'une police municipale ne soit pas armée, je n'imagine pas qu'une police municipale ne soit pas nombreuse, et je n'imagine pas qu'un maire dise pas de caméra chez moi, pas besoin.
Laura Varton ou Abel. Laura ?
Ouais, non, en fait, ce que je déplore, c'est que la sécurité a été trop longtemps le sujet uniquement de la droite. Et là, ça devient trop tard, en fait. Oui, la gauche s'y met vraiment dans les grandes villes parce que ça devient.
Regarde, pendant longtemps, à Paris, les socialistes ne voulaient pas entendre parler de la police municipale.
C'est ça.
Et finalement, Anne Hidalgo en a mis en place
et
une.
Et en fait, j'ai jamais compris pourquoi la sécurité des concitoyens ou des gens devait être un problème de droite. Pour moi, c'est un problème national, peu importe le parti politique. Il y a des sujets comme ça où il n'y a pas.
Tu es rassuré lorsqu'il y a une police municipale.
Ah oui, et j'ai aucun problème avec ça. Je vais te donner un exemple tout simple. Heureusement que moi j'ai de la chance, Madame Portelli, dans ma ville, sur la sécurité, elle met le paquet. Je suis avec ma petite fille au restaurant et il y a un monsieur qui se promène. On est en terrasse, il y a un monsieur qui se promène, qui nous montre ses fesses et tout, et qui traverse. Il traverse la rue plusieurs fois et moi je me dis que ce monsieur est un peu fatigué du bocal et j'ai peur qu'il se fasse écraser ou qu'il crée un accident. J'appelle la police et en fait la police me dit qu'à chaque fois il l'arrête et que c'est un exhibitionniste et qu'il était là pour ma fille. Donc oui, moi je vois pas. Alors il y a des débordements policiers, ça arrive, mais moi je fais partie de ces
la
gens.
La police municipale, c'est la nouvelle police de proximité en fait.
C'est devenu ça. Moi ça me rassure quand je vois
c'est
la police.
Voit dans nos rues.
Moi ma fille est dans une école catholique et quand il se passe des choses un peu tendax entre les religions, quand j'ai la police qui est devant l'école de ma fille, ça me rassure.
Abel Boyi.
Beaucoup de choses ont été dites déjà, mais ce que je trouve scandaleux, c'est que ça a été un sujet de débat. Temps perdu. Je suis d'accord avec toi à 100%. Il est logique qu'il puisse y avoir des caméras de vidéosurveillance.
Mais pendant longtemps, c'était un sujet de débat.
Et aujourd'hui, il est même logique que la police municipale puisse être armée. Ça fait des décennies, quand on parle du narcotrafic.
Est-ce qu'à Marseille, elle est armée, la police municipale? Ouais, elle est armée ici.
Non, mais c'est-à-dire que c'est
une ville de gauche à armer sa police municipale.
Oui, mais c'est pas normal que ça fasse débat. La sécurité, c'est-à-dire c'est pour protéger les Français, c'est pas pour être répressif envers les Français de premier abord. On a perdu du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les délinquants, ils ont profité de cette confusion des débats, ils se sont développés, et aujourd'hui on arrive dans une situation où, comme tu le disais, je me demande si ce n'est pas trop tard. Et aujourd'hui, pourquoi le sujet de la sécurité revient en force à chaque fois qu'il y a des élections, et entre périodes d'élections, c'est plus calme, et la population subit en tant que spectateur faible la violence au quotidien. Mais parce que aussi c'est le seul sujet qui donne la fausse impression aux élus que les politiques agissent. Ça, c'est la réalité. Parce que la sécurité, elle augmente partout. Et elle va continuer.
Alors visiblement, par exemple, à Marseille,
elle augmente pas.
À Marseille, contrairement peut-être à une idée reçue, les chiffres sont en baisse à Marseille.
Oui,
on parle beaucoup de Marseille avec les points de deal, le problème de trafic de drogue.
Alors
les Marseillais sont pas d'accord, mais je regardais les chiffres qui sont donnés par la presse.
Oui, après, attention, t'as des requalifications, justement.
Non, mais les chiffres sont en baisse.
Oui, mais t'as des redéclarations.
C'est peut-être pas le ressenti.
Non, c'est même pas ça, c'est pire que ça. Tu as des requalifications parfois des actes de délit pour que justement les chiffres baissent. Il y a plein de choses qui se passent.
Mais on dit qu'on trafique. Alors, quand ils sont en hausse, ils sont pas bons. Non, je pense qu'il
y a quand même le ressenti des gens. Je donne deux anecdotes. Je me suis promené hier. J'ai revu un vieil ami marseillais. On s'était
comme
pas
ça,
vu
par
depuis...
hasard.
Mais non, j'ai déjeuné avec lui. Ce vieil ami marseillais qui a défendu la ville de Marseille depuis toujours, etc., m'explique qu'avec sa femme et ses enfants, ils sont sortis de la ville pour habiter en dehors parce qu'ils n'imaginaient pas voir sa femme et ses enfants rentrer le soir dans un quartier correct, m'expliquait-il, mais dont il a vu le niveau de sécurité s'effondrer ces dernières années. Donc, un Marseillais historique est sorti de la ville. Ensuite, quand je me promenais un peu plus tard sur le Vieux-Port, il y a un auditeur qui me reconnaît et qui m'explique, je suis Marseillais depuis toujours, au niveau national, je vote plutôt à gauche, j'ai voté Benoît Payan la dernière fois, mais cette fois-ci, je vais voter RN parce qu'il faut envoyer un signal sur la sécurité, parce que j'en peux plus, moi qui vis là. Donc, on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Moi, j'aime bien écouter aussi les gens qui te disent, ici, je suis plus serein. Et quand tu n'es plus serein dans ta ville, quand tu n'es plus serein à l'idée de sortir de ce qui va se trouver en bas de chez toi, tu n'as plus des conditions de vie acceptables.
Je pense que c'est pour ça que le RN monte en force dans toutes les grandes villes. Pourquoi ? Parce que ce sont les seuls qui ont vraiment à bras-le-corps et depuis toujours, ils se sont pas réveillés il y a 3 mois. La sécurité, ça a vraiment été leur leitmotiv. La sécurité au sein des villes et au sein des ruralités, ça a toujours été le cheval de bataille du RN. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de prendre du terrain. Et que des gens qui ont toujours voté plutôt à gauche ou socialiste, voire même macroniste, là, sont en train de basculer RN, non pas pour l'ensemble des idées du RN, mais juste pour le côté sécuritaire.
Nous sommes avec Mathieu au 32-16. La question est de savoir, est-ce que pour vous, effectivement, la sécurité est la première préoccupation pour ces municipales? Mathieu est avec nous du côté de Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Gégé, bonjour Marseille.
Dites-moi, c'est quoi la situation sur le front des intempéries? Parce que la Bretagne est très touchée. Là, comment ça se passe chez vous aujourd'hui?
Ouais, ça c'est humide, c'est tout, quoi. Voilà, c'est vrai que.
Ah bon,
ça
dure,
c'est un breton, hein.
Ah bon.
Par contre,
vrai, vous n'avez pas peur de l'eau en Bretagne?
Non, mais c'est vrai qu'on a l'habitude aux épisodes pluvieux comme ça, mais là, ça devient lassant quand même. On peut plus rien faire. C'est compliqué, quoi.
Ça fait 37 jours qu'il pleut en France, quand même, hein, sauf à Marseille.
Voilà.
Alors vous, le chauffeur routier, que pensez-vous de la sécurité? Est-ce que pour vous, le maire, ça doit être l'une de ses premières préoccupations?
Le maire, c'est l'une de ses premières préoccupations dans une ville de 1 000, 2 000, aller voir 10 000 habitants maximum. Après, passer au-delà, ça prend des ampleurs un peu différents, où il va avoir des points de deal, des stupéfiants qui va se mettre. Et là, un maire, ça va être plus compliqué. Un maire n'aura pas assez de pouvoir seul pour endiguer tout ça. Il va faire la sécurité sur le marché du samedi ou du dimanche, mais après passer au-delà, c'est compliqué pour un maire de faire respecter,
notamment quand on a de la grande délinquance, de la grande criminalité. Là, forcément, c'est l'État qui doit intervenir.
C'est ça. Un maire dans une petite ville peut aller voir une personne qui, on va dire, qui crée du désordre dans sa ville, lui parler et peut-être le raisonner. Là, je vois mal le maire de Marseille aller voir un gars qui fait des conneries dans Marseille pour lui dire calme-toi, quoi, parce que tu fous le bordel dans ma ville.
Mathieu, je pense que vous faites une idée encore un peu ancienne de la police municipale. Aujourd'hui, moi, j'ai vu dans certaines villes, avec des maires volontaristes, des équipes.
On parlait des grandes villes.
Non, mais même dans des grandes villes. J'ai vu dans des grandes villes des équipes municipales qui mettent en place des effectifs de nuit de police municipale qui sont mieux équipés en termes de matériel, mieux entraînés que les effectifs de police nationale, qui sont parfois même des anciens de la police nationale, qui sont des anciens militaires. Et donc, le maire, aujourd'hui, n'a effectivement pas de pouvoir d'enquête, etc.
Mais
il est en mesure de monter des effectifs.
C'est un coût. C'est des choix budgétaires aussi.
Bien sûr.
Je pense que, on va dire, Antoine, on va dire, toi comme moi, on va voir la police municipale, on va respecter la police municipale. Un dealer de drogue, il voit un policier municipal, il en a rien à foutre. Il va pas respecter.
Vous croyez que le policier municipal, il ne se fait pas respecter?
Mais Mathieu, il y a aujourd'hui des effectifs d'intervention en police municipale.
On le voit bien que.
Oui, mais a priori, le police municipale n'intervient pas sur un point de deal ou sur le trafic de drogue. C'est pas vraiment sa compétence.
Mais justement, vous faites une idée. Ils n'ont effectivement pas de pouvoir d'enquête, pas de pouvoir judiciaire. Ils vont pas démanteler le réseau.
Donc ils vont faire quoi?
Ils peuvent largement tomber sur le flagrant délit de vente de drogue, etc.
J'ai vu
des policiers extrêmement courageux en banlieue parisienne qui sont venus harceler tous les jours sur le point de deal pour faire bouger, pour rétablir la tranquillité des riverains.
Donc tu veux faire partir les gens, quoi, du point de deal.
Tu fais partir, tu interpelles, par la présence, tu remets à la police nationale, tu es en mesure d'établir des procès-verbaux de tel jour, telle heure, nous constatons la présence de tel individu, code du no-service, etc. Oui, tu vas aider à l'enquête.
Oui, mais attention, parce que c'est aussi, dans ce cas-là, parfois un moyen pour l'État de se désengager en disant finalement les mairies vont se démerder, elles vont mettre beaucoup d'argent.
Nous
on va faire des économies parce que, par exemple, à Marseille ou dans des grandes villes, on attend aussi comme des déploiements importants de CRS, de police judiciaire. Il faudrait pas que ça permette à l'État de
travailler à deux.
D'être plus là, en fait, de partir.
Tu travailles à deux, et cette compétence sur l'ordre public, la tranquillité publique pour les maires, elle n'est pas nouvelle. Et les gens accepteront largement qu'une partie de leurs impôts serve à la police. Hein. Vu tout ce qu'on met dans la culture, dans les conneries, etc., moi je préférerais mettre dans la police municipale.
Ce qui fait la confusion, c'est cette perte de temps dans les débats et cette disparité du déploiement des effectifs de police d'une ville à l'autre, des fois de villes limitrophes, qui fait que sur le terrain, on n'y comprend plus rien en réalité. Donc effectivement, les missions de la police municipale, je pense que beaucoup de gens ne savent pas quelles sont.
Et
il y a confusion avec l'émission de la police nationale.
C'est le maire qui donne le ton de la ville, qui donne le ton sécuritaire de la ville.
Oui, mais il n'est pas tout seul, il a besoin de l'État pour l'aider.
Non, il n'est pas tout seul, mais si lui, il part dans une direction, ensuite, il donne des instructions à sa police municipale, et ensuite, la police municipale travaille étroitement liée avec la police nationale ou d'autres instances.
On remercie Mathieu, et on va accueillir au 32-16 Thomas des Bouches-du-Rhône, non loin d'ici, à La Ciotat. Bonjour Thomas, bienvenue.
Bonjour, Thomas. Bonjour à tous.
Bonjour. Que pensez-vous de ce thème de la sécurité qui revient? On est à 3 semaines, 1 mois du premier tour des municipales, et visiblement c'est l'un des sujets de préoccupation. C'est le vôtre aussi?
Bah, moi, pour moi, comme de par hasard, ça revient à ce moment-là. C'est bizarre. Ah. Bon, on a l'habitude, à force. Hein. Bon, ici, surtout dans le Bouches-du-Rhône, on a l'habitude. Dès qu'il y a les élections, oh, la sécurité. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Parce que ça fait 11 ans que je suis dépanneur. Moi, ça fait 11 ans que je suis dépanneur automobile sur Marseille. Oui. Et la sécurité, bah, il y en a de moins en moins.
Comment vous constatez ça?
Et je tape pas sur la police, parce que la police, ils pensent qu'ils peuvent. Et sauf qu'ils ont pas, ils ont rien pour lutter sur tout ça.
Comment vous constatez ça sur le terrain, vous, en tant que dépanneur automobile?
Oui, bah, c'est la, bah, comment je le constate? Moi, je le vois, hein. On se fait tout le temps insulter, il y a tout le monde qui insulte. La police, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont pas là. Ils sont là à des endroits.
Vous avez quitté vous avez quitté Marseille pour ces raisons-là?
Ah oui, moi je me suis barré de Marseille parce que je voulais pas que ma fille grandisse dans cette ville qu'elle se fasse violer dans le tram, qu'elle se fasse violer dans le métro. Mais bien sûr, moi, ma femme a travaillé aux terrasses du port, donc les gens qui sont ici connaissent. Elle prenait le métro. Pour elle, nous, on habitait vers le stade Vélodrome, donc les terrasses du port Vélodrome, donc c'est pas la porte à côté. Tous les jours, tous les soirs, quand elle faisait la fermeture, il y avait toujours, elle se faisait toujours siffler, presque frotter, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, quand on a eu l'opportunité de partir, on est parti. Et moi, je travaille à Marseille, je m'en fous. Mais ma fille, elle viendra pas à Marseille. Ma fille et ma femme sont allées à Marseille pour les Jeux Olympiques, là, quand il y a eu le bateau.
Oui.
Ma fille, elle a été traumatisée. Elle m'a dit, je veux plus mettre un pied à Marseille.
Pourquoi? Ça s'est plutôt bien passé ce jour-là.
Ah ben oui, c'est ce qu'on dit à la télé, mais en réel, ça s'est pas bien passé.
Parce que moi, je dis ça parce que j'y étais sur place.
Ma fille, elle y était, elle m'a appelé en visio, elle était en bas de la Canebière et je vous garantis que c'était...
Elle se sentait pas en sécurité.
Ah ben non, hein, ils se sont fait gazer, ils se sont tous fait, et voilà. Mais c'est toujours comme
okay,
ça.
Ok, Thomas. Merci Thomas, merci. Ben, on continuera de parler de Marseille et des enjeux électoraux Marseille qui pourraient tomber entre les mains du RN. C'est une question qu'on posera tout à l'heure au directeur de la rédaction de La Provence qui sera avec nous avec un sondage très intéressant qui est publié aujourd'hui même dans les colonnes de La Provence. Merci Thomas. Dans un instant, ce chiffre, plus de 13 000 millionnaires français ne paient pas d'impôts sur le revenu. C'est quand même étonnant, ah bon, voire scandaleux. Allez, on va en parler dans les grandes gueules sur RMC, RMC Story et BFM Marseille. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules à Marseille. L'ambiance monte à Marseille.
Avant c'était trop tôt.
Oui, c'était trop tôt là. Là, c'est l'heure marseillaise, 10h25. Ben oui, on est bien, on est au Palais de la Bourse depuis 9h ce matin. On est là jusqu'à midi avec les Marseillais, bien entendu, pour cette première étape de notre tournée des municipales. Marseille, on en parlera d'ailleurs dans un instant avec ce sondage exclusif qui montre que rien n'est joué à 3 semaines du premier tour et peut-être que le RN pourrait l'emporter à Marseille. En tout cas, c'est une question qu'on posera au directeur de la rédaction de La Provence qui nous rejoindra dans une dizaine de minutes. Avec Abel Boyi, l'éducateur, Antoine Dierre, ce consultant, Laura Barton-Martinez, la sophrologue. On va s'intéresser à ce chiffre qui nous a interpellé ce matin dans l'actualité. Il y a 13 000 foyers français fortunés qui ne mettent pas d'impôt sur le revenu. C'est un document de Bercy, du ministère des Finances. En 2025, plus de 13 000 foyers normalement soumis à ce qu'on appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, donc ils payent l'impôt sur la fortune immobilière, mais qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Aucun IR, comme on dit, aucun impôt sur le revenu. Alors, pourquoi? Pourquoi ces millionnaires, parce que c'est des gens qui gagnent qui ont plus d'un million d'euros de patrimoine, pourquoi ces gens-là ne payent pas d'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est choquant? Est-ce qu'il faut y remédier? Alors, visiblement, c'est légal, hein. Il y a les niches fiscales, il y a légal, l'optimisation. Hein. Et puis, il y a aussi des gens qui parfois ne travaillent pas, en fait, qui sont des rentiers, c'est ça, Antoine?
Alors, clairement, j'entends tout de suite les gens qui disent, mais c'est honteux, etc. Mais en fait, l'impôt sur le revenu, c'est quand tu touches des revenus. ces gens-là ne touchent pas de revenus, ils n'ont pas de salaire, ils touchent des dividendes de leur société. Les dividendes sont fiscalisés, ils payent de l'impôt sur les dividendes. Voilà, ils sont fiscalisés ailleurs. Donc tout de suite, j'entends qu'on va dire ouais, encore pour les riches, etc. Mais non, c'est juste qu'ils ont des revenus différents du salarié qui voit de l'impôt sur le revenu.
C'est pas ça. Moi, j'ai travaillé. On avait une table de direction avec mes parents. J'ai travaillé dans une banque de patrimoine. Donc une banque de patrimoine, messieurs dames, nous on n'ira jamais. C'est pas pour nous. Et bizarrement, quand arrivaient les élections ou le moment des bilans, nos tables étaient complètes. Et en fait, il se passe quoi ? C'est que la loi est faite de telle manière que tu peux optimiser ton argent, mais quand t'es riche, parce que quand tu es riche, déjà t'as de l'argent à optimiser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
C'est pauvre,
voilà. Et deuxièmement, tu as des conseillers fiscaux.
Bien sûr.
Mais... en fait, le problème, moi, techniquement, c'est pas que j'en veux pas à ces gens. Enfin, je veux dire, on serait les premiers à optimiser notre argent pour payer le moins d'impôts possible. Le seul problème, c'est que la loi, elle est faite pour pouvoir optimiser. Et encore, et donc.
C'est
oui, mais c'est le problème, c'est que c'est le combat qu'on mène nous avec 300 pour la France, notre think tank d'entrepreneurs, c'est que il y a une charge sur les entreprises qui est énorme. Sauf qu'à partir du moment où tu dépasses un certain gain d'argent, tu te retrouves avec des équipes fiscales qui peuvent te permettre d'optimiser et de manière complètement légale. Il faudrait baisser la fiscalité des entreprises, de toutes les entreprises, mais par contre réduire drastiquement toutes les capacités et les options d'optimisation fiscale, ce qui pourrait permettre que tout le monde paye la même chose et que tout le monde paye à hauteur de ce qu'il est capable de donner.
De toute façon, en réalité, ça reste inaudible pour tout le monde, même si je comprends qu'il faille expliquer et qu'il paye des impôts d'une façon différente. Mais l'optimisation fiscale aussi a une zone très grise, pour ne pas dire noire, avec la fraude fiscale. C'est-à-dire que les règles sont tellement compliquées. Vous avez des avocats fiscalistes. Il y a des avocats fiscalistes, des fois, qui vous donnent même des conseils comment jouer avec la loi. C'est le principe de certains avocats.
C'est donc que c'est autorisé.
Oui, mais bien entendu. Mais
la première chose que j'ai dit,
c'est autorisé. Mais le scandale, c'est que ce soit autorisé en réalité, parce que proportionnellement, en France et comme dans d'autres pays, plus tu gagnes de l'argent, moins tu payes d'impôts. Après, tu me diras.
C'est pas vrai.
Mais si, parce que ce que tu vas dire.
C'est
parce que ce que tu. Oui, en proportion, parce que ce que tu vas me dire, effectivement.
Et même en
ce millionnaire, en termes de dividendes, de ce qui est prélevé sur ces dividendes, ça va certainement être supérieur à ce que nous gagnons tous les quatre réunis, certainement.
Mais par rapport
à ceux qui gagnent. Je suis désolé, c'est inférieur proportionnellement.
Alors, pour essayer d'y voir plus clair, je voudrais qu'on donne la parole à Emmanuel Le Chypre qui est avec nous au 32-16, notre éditorialiste éco, parce qu'effectivement, on ne comprend pas très bien ce chiffre et ce qu'il veut dire. Emmanuel Le Chypre, bonjour, bienvenue dans Les Grandes Gueules, Emmanuel.
Bonjour à tous.
Donc, on a 13 000 Français, enfin foyers fiscaux qui sont millionnaires, comme on dit, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais qui payent l'IFI, l'impôt, par exemple, sur l'immobilier. Voilà. Comment est-ce possible ?
En fait, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est qu'on a quand même une palette de situations qui sont extrêmement différentes, en fait. Alors, vous avez de celui qui subit un peu cette situation jusqu'à celui qui pratique l'optimisation fiscale la plus agressive. Parmi, par exemple, ces 13 000 foyers fiscaux, vous avez, alors c'est un peu cliché, mais de dire le cultivateur de l'île de Ré, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont peu de revenus, mais qui ont un patrimoine finalement immobilier qui fait que voilà, ils sont assujettis à cette ISF sans payer l'impôt sur le revenu. Vous avez des salariés par exemple qui ont acheté des appartements qui ont vu leur prix multiplié par 2, par 3 en 30 ans, qui avaient des bons salaires, qui ont des pensions plus petites et qui finalement échappent aussi à ça. Donc ça, c'est vraiment la situation la plus passive, j'ai envie de dire. Après, il y a effectivement une partie des foyers, mais qui sont encore une fois des millionnaires en patrimoine, mais qui correspondent plus à de la classe moyenne supérieure, qui sont des foyers qui ont une partie des revenus qui est exonérée par tout un tas de mécanismes. Le plus connu, c'est par exemple quand vous faites des plus-values de cession sur votre résidence principale, bon ben voilà, vous êtes exonéré si ça tombe cette année-là. Il y a des dizaines de dispositifs comme ça. Puis après, il y a les dispositifs plus agressifs. Vous avez les déficits fonciers. Vous savez, quand vous investissez, par exemple, prenez quelqu'un qui a de l'argent, qui va investir, par exemple, il va s'acheter un vignoble, il va refaire la cuverie, il va refaire tous les trucs. Bah, tous ces investissements que vous faites, ça peut venir en déduction de vos impôts. Donc ça, c'est plutôt une bonne affaire. Jusqu'au holding.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment scandaleux?
Ah non, 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 je dis pas que c'est scandaleux. Là, moi, je vous décris la situation.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, parce que... Oui. Non, mais, pardon, mais Emmanuel, je coupe. Parce que quand on donne ce chiffre, forcément, on se dit, ah, c'est pas possible, comme tout le monde paye beaucoup d'impôts, parfois estimant en payer trop.
Tout le monde n'en paye pas, Olivier.
Et on s'aperçoit que tout d'un coup, il y en aurait 13 000 qui échapperaient à ces impôts, donc quel scandale, etc. On voit bien l'instrumentalisation politique qu'il va y avoir derrière. Alors, est-ce que c'est vraiment scandaleux? Est-ce qu'il faut corriger ça?
Non mais ça, il y a deux débats et que vous ne pourrez pas trancher. Enfin, on peut les trancher dans les faits. Il y a un débat moral et il y a un débat d'efficacité économique. La réalité, c'est que la fiscalité en France aujourd'hui, globalement sur ceux qui créent de la richesse, et c'est ça qui est important. Hein, c'est que encore une fois, moi je veux bien entendre que les Français, les ménages français sont matraqués fiscalement, mais c'est faux. C'est-à-dire si vous regardez toutes les comparaisons internationales, prenez les cotisations sociales, prenez la TVA. Prenez l'impôt sur le revenu. Je veux dire, les Français, les ménages français ne sont pas, même si l'impôt sur le revenu français est assez concentré, d'accord. Mais globalement, les ménages français qui se plaignent tout le temps ne sont pas surtaxés. Ce sont les entreprises en France qui sont surtaxées. Et une partie de ces dispositifs fiscaux vise pour essayer de maintenir quand même un outil productif efficace et une incitation à entreprendre en France. Ils ont effectivement des dispositifs qui leur permettent d'optimiser ça. Donc voilà. Et le débat que vous avez.
Mais ça crée l'emploi, c'est des dispositifs qui créent l'emploi.
Évidemment,
c'est dans les faits, pardon, Emmanuel.
Attends, on va laisser répondre. Non, mais juste, la réalité, c'est que, comme par hasard, vous n'avez jamais eu autant de mouvements migratoires de grosses fortunes qu'en 2025, parce que vous avez pas mal de pays qui ont commencé à les taxer. On a vu ça en Norvège, on a vu ça en Angleterre. Jamais autant de grandes fortunes n'ont migré dans le monde en 2025, et notamment pour aller, par exemple, dans des pays, dans des zones comme le Moyen-Orient. Il faut assumer ce choix. Si vous voulez que ces gens qui sont des créateurs d'emplois, d'entreprises, restent en France et créent des emplois. Voilà. Mais après, on peut juger que pour des raisons morales, ils devraient payer plus d'impôts. Mais voilà. Donc, encore une fois, c'est un débat efficacité contre morale, c'est très difficile de le trancher, mais on sait que si on pénalise effectivement ces gens-là, encore une fois, vous l'avez très bien dit tous, ce sont des dispositifs légaux, et ben, il faut savoir que ça aura un impact sur l'activité économique, bien sûr.
Donc vous dites qu'ils sont efficaces sans doute économiquement, après moralement...
Le problème, c'est qu'ils sont efficaces que pour une partie des entrepreneurs.
Mais ce sont eux qui créent des richesses, pardon.
Ce sont les TPE et les PME qui font travailler...
Ça, tu peux baisser les impôts, ça n'empêche pas l'autre.
Mais non, mais pas du tout, parce qu'on on se verse quasiment pas de dividendes, la plupart, on se verse quasiment pas de salaire. On rêve que d'une chose,
c'est d'augmenter.
Attends, je finis.
On
ne rêve que d'une chose, c'est d'augmenter nos salariés. On voudrait réinvestir. Tu crois que le plombier qui a le camion qui tourne, qui pollue tout, où il se pèle le fion l'hiver, il a pas envie un peu de changer son truc? Donc non, on ne peut pas. Donc une entreprise moyenne, une TPE-PME qui s'en sort, elle se fait matraquer en impôts, elle n'a aucun avantage à travailler en France. En plus de ça, si demain elle perd sa boîte, elle n'a pas de sécurité, elle n'a pas de chômage, elle a walou, les banques ne te suivent pas. Mais par contre, si t'es un multimillionnaire qui,
Laura, l'opposition que tu mets en place entre le petit entrepreneur et
je mets pas en opposition parce que moi j'adorerais être un grand entrepreneur.
D'accord, mais
que la fiscalité soit réduite pour tout le monde. Et qu'on interdise les options de défiscalisation.
Mais non, c'est pas en interdisant la défiscalisation que tu vas arranger la situation du petit entrepreneur.
Ben si, parce que si tu interdis la défiscalisation, mais que tu mets tout le monde à niveau pour payer à un pourcentage égal, tout le monde la même chose, et qu'on baisse la fiscalité des entreprises, et automatiquement, ça reporte sur les salaires qui vont être augmentés, parce qu'on pourra augmenter nos salaires. Quand tu regardes que je dois donner quasiment trois fois à l'État ce que je dois donner à mon salarié, c'est dégueulasse.
Un dernier mot, Antoine.
On parlait d'impôt sur le revenu. Si on revient là-dessus, moi je veux quand même rappeler des choses, c'est que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu.
C'est honteux.
Donc aujourd'hui, cet impôt est extrêmement injuste. Il repose uniquement sur les plus riches. Rappelons également que l'impôt sur le revenu est un impôt progressif. C'est-à-dire que plus tu montes en revenu, plus tu es fiscalisé, c'est-à-dire que le pourcentage de fiscalisation de l'euro marginal gagné est plus important, jusqu'à 45%. C'est-à-dire que au-delà d'une certaine tranche, 1 euro sur 2 que tu gagnes, tu vas le donner en impôt sur le revenu.
Parce qu'une entreprise, une TPE-PME, est déjà taxée à 45%.
Les patrons de PME-TPE sont aussi choqués que nous.
Je vous rappelle quelques chiffres. 30% de l'impôt sur le revenu est payé par 1% des plus riches.
Oui, ça c'est vrai, c'est très concentré.
10% des plus riches payent 60 à 70% de l'impôt sur le revenu. Donc en réalité, l'impôt sur le revenu tabasse déjà les gens qui ont beaucoup de revenus.
Merci Emmanuel Le Chypre pour ces explications. Merci à tous. Dans un instant, on va revenir sur la situation politique à Marseille. On est à 3 semaines du premier tour. Il y a un sondage qui est publié ce matin par nos confrères de la Provence qui montre que rien n'est joué. Tout va se jouer entre, a priori, le socialiste sortant Benoît Payan et le candidat RN Franck Alizio. Cette question, est-ce que le RN peut gagner la deuxième ville de France? On parle des municipales sur RMC Story et BFM Marseille. Avec vous les Marseillais, les grandes gueules sont là jusqu'à midi en direct de Marseille.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Marseille. Marseille est là. Au Palais de la Bourse pour les grandes gueules, première étape de notre tournée spéciale municipale. Merci d'avoir répondu présent. Nous sommes là depuis 9h jusqu'à midi pour débattre de l'actualité et pour parler aussi de Marseille parce qu'on est à 3 semaines du premier tour. Ce déplacement, c'est en partenariat avec la Provence en simultané sur BFM Marseille. Ben justement, la Provence, son directeur de la rédaction vient de nous rejoindre. On va parler politique avec cette question. Est-ce que le RN peut gagner la deuxième ville de France? Olivier Biscay, bonjour.
Bonjour Olivier.
Directeur de la rédaction de la Provence, avec ce sondage passionnant publié ce matin dans les colonnes du journal. Sondage Elab sur le premier tour et le deuxième tour des élections municipales à Marseille. Sondage exclusif, rien n'est joué. C'est vrai que c'est bien résumé parce que alors, rien n'est joué, mais quand même on va vers un duel entre le maire socialiste sortant Benoît Payan et le candidat RN Franck Alizio. Avec cette question quand même, le RN pourrait peut-être l'emporter.
Alors, pourrait peut-être l'emporter. En effet, moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce qui se passera au soir du 22 mars. Ce qu'on voit quand même dans le sondage, c'est qu'il y a une très forte poussée du Rassemblement National au premier tour. Comme rarement, probablement, on a pu l'observer ces dernières années. Benoît Payan et Franck Alizio sont au coude à coude.
Alors, jeune des chiffres. Au premier tour, Benoît Payan serait donc à 30, si on votait la dimanche, serait à 31% au premier tour. Franck Alizio, juste derrière, 29. Martine Vassal, candidate de la droite LR, 22%. Et puis quatrième, qui pourrait également se qualifier pour le second tour, c'est Sébastien Delogu pour la France Insoumise, 12%.
Oui, et c'est une tendance qui s'observe depuis plusieurs mois maintenant, sondage après sondage. Ce n'est pas notre premier sondage, mais c'est la première fois cependant qu'on teste au deuxième tour des hypothèses, qui permettent de constater une poussée très forte du RN et une victoire dans tous les scénario de Benoît Payan, parce que Martine Vassal, quand elle se maintient, n'arrive pas à passer la barre des 21, 22 ou 23% en fonction des scénarios. Donc voilà ce qui se dessine à 3 semaines du premier tour, et on voit quand même bien dans ce sondage qu'il y a encore des indécis, que ça peut encore passer de l'un à l'autre. Donc c'est pour ça que rien n'est joué et que c'est notre titre ce matin à la une du journal.
Néanmoins, si on prend par exemple l'hypothèse du scénario d'un duel classique entre Benoît Payan et Franck Alizio, c'est quand même Benoît Payan qui l'emporterait. 56-44, donc quand même
un report de voix très important.
Oui, report de voix à gauche et peut-être une partie aussi des macronistes ou de la droite modérée. Dans un scénario qui semble aussi se dessiner, c'est le scénario à 4. Et là, c'est quand même plus serré entre Benoît Payan et Franck Alizio. Là.
Oui, c'est beaucoup plus serré. Et je rappelle qu'il y a toujours une marge de manœuvre dans les sondages de 2 à 3 points. Et on voit bien que dans cette quadrangulaire, Benoît Payan est en tête, suivi de Franck Alizio. Donc tout peut encore arriver. On voit aussi comment, et c'est ce qu'on va observer ces prochaines semaines, comment l'électorat de droite peut véritablement basculer vers l'électorat, vers la candidature de Franck Alizio, le Rassemblement National. On voit quand même dans ce sondage qu'elle tient sur ses fondamentaux, Martine Vassal, parce que certes, elle n'est pas aux 30% qu'elle espérait, elle est à 21, 22, 23, mais entre le premier et le deuxième tour, elle ne décroche pas tant que ça. On sait que Benoît Payan, aujourd'hui, capitalise sur le centre, sur l'électorat centriste de Martine Vassal. Martine Vassal qui a fait l'Union, mais le grand écart de l'Union. Le centrisme, le macronisme d'un côté et la droite, de la droite de l'autre côté. Et donc, elle voit bien que cet électorat-là peut basculer vers Payan dans un entre-deux-tours si elle ne peut pas se permettre de gagner ou d'être dans une position de gagner.
Antoine Dias.
Je crois que c'est le cœur du sujet, c'est que moi, je suis un ancien électeur LR, historique, la droite, je suis dunkerquois, donc très loin des sujets marseillais. Mais quand je vois cette candidate Les Républicains qui dit « Ah, jamais d'alliance avec avec le RN. Elle l'a dit, il me semble, il y a quelques semaines.
Ouais.
Alors même que tout électeur de droite marseillais n'aspire qu'à une chose, on l'a redit ici, c'est de la sécurité, c'est la reprise en main de la ville. On peut évidemment pas tout mettre sur le dos de Benoît Payan, mais il y a quand même pas beaucoup de résultats dans la politique de Benoît Payan ces dernières années. Il a eu une chance inouïe aussi, Benoît Payan, on en a pas encore reparlé, mais le plan Marseille en grand, le président de la République annonce je vais mettre 5 milliards sur la ville. Enfin, c'est absolument fou. Moi, je n'ai pas d'autres exemples où l'État serait venu comme ça au chevet d'une ville en proposant autant de milliards. Et il n'a pas réussi à faire sortir beaucoup de projets, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de perspectives. Et donc je me dis, moi je suis électeur LR marseillais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vote Martine Vassal dès le premier tour, fidèle à mes convictions? Ou finalement, si je veux du changement, je vote dès le premier tour pour le RN? Ensuite, au second tour, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai le sentiment que Martine Vassal ne peut pas rester dans cette situation de dire je me maintiens pour préserver les équilibres.
Mais tu penses qu'elle pourrait faire un accord avec Franck Alizio?
J'ai l'impression qu'il y a une urgence pour Marseille et qu'elle ne peut pas rester comme ça et que l'électeur attendrait qu'elle fasse cet accord avec le RN.
D'abord, je crois pouvoir dire qu'il n'y aura pas d'accord entre Martine Vassal et Franck Alizio. D'abord parce que c'est la position de la candidate depuis des semaines et je pense qu'elle peut difficilement, politiquement, faire autrement. S'allier au Rassemblement National entre le premier et le deuxième tour, c'est la fin de LR, c'est la fin de Martine Vassal, c'est la fin d'une politique de droite.
Mais ne pas le faire, c'est permettre la réélection de Benoît Payan.
Cependant, le maintien de Martine Vassal.
Ah ben, si elle se maintient, elle permet la réélection.
Pas forcément, puisqu'on regarde dans l'hypothèse d'un second tour, dans l'hypothèse que Martine Vassal ne se maintient pas, se retire, on voit quand même que Benoît Payan est réélu. Alors, c'est le scénario 2. Hein. Mm-hmm. Donc, Payan fait 44, Alizio 42 et Delogu 14. Alors, c'est serré, hein, 44-42. Mais ça veut dire néanmoins quand même que Benoît Payan serait élu.
Mm-hmm. Oui, et dans toutes les hypothèses, il est réélu dans toutes nos hypothèses.
Voilà, c'est ça, il est réélu. Mais au-delà des pourcentages, parce qu'il y a des marges d'erreur, et puis tout va bouger d'ici trois semaines sans doute, mais comment expliquer la montée du RN à Marseille ?
Je crois que, comme dans beaucoup de villes de France, la droite d'abord a été, ces dernières années, en retrait sur des sujets fondamentaux que les électeurs avaient besoin de voir traités par la droite. La sécurité, les valeurs et des sujets de la vie quotidienne. Et le Rassemblement National, profitant de l'abaissement à la fois de la droite et puis d'une partie de la gauche, en réalité, parce que l'électorat de la gauche est aussi allé vers le Rassemblement National, eh bien, a phosphoré sur ces sujets-là. Et vous savez bien ce que l'on dit, parfois on préfère l'original à la copie. Et là-dessus, le Rassemblement National a phosphoré sur la sécurité pendant que la droite, probablement, était en retrait. N'oublions pas qu'à Marseille, on est dans une situation un peu particulière. Longtemps, Jean-Claude Gaudin. En 2020, c'est Martine Vassal qui, dans toutes les hypothèses, doit l'emporter. Je rappelle le sondage du premier tour, quelques semaines avant, 37% pour Martine Vassal. Finalement, elle fait 26. Madame Rubirola, avec 15% dans les sondages, finalement, elle fait 27. Et donc, ça s'est croisé. Et on voit bien que la droite sort d'une période de convalescence depuis 6 ans au niveau municipal. Et elle a du mal, malgré l'union, et c'est une première, à revenir, voyez, dans le jeu. Et le Rassemblement National, pendant ce temps, parce qu'il y a aussi une vocation nationale, a repris des sujets forts de la vie quotidienne.
Il y a un changement, il faut rappeler qu'il y a un changement de scrutin aussi à Marseille, comme à Paris et Lyon, puisqu'on a modifié la loi PLM.
Il y a deux urnes, en effet.
Voilà, il y a deux urnes. On vote à la fois pour son maire d'arrondissement, mais aussi on vote directement pour son maire, ce qui n'était pas le cas avant.
Absolument, oui, tout à fait. Ça sera un vrai changement. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que tous les Marseillais aient totalement saisi la manière dont ça va se passer. Je pense qu'au premier tour, le 15 mars, en arrivant dans le bureau de vote,
il y a deux urnes.
Tout le monde comprendra qu'il y a deux urnes. Quoi. C'est pour ça qu'on fait aussi de la pédagogie dans nos éditions de la Provence.
Et c'est le cas à Lyon et à Paris également. Laura.
Oui, le RN monte et va monter, je pense, dans toutes les villes. Mais pourquoi, comme vous le disiez très bien, avant des sujets qui appartenaient à la gauche, la classe ouvrière, travailler dur, manger correctement grâce aux fruits de son travail, etc., c'était des choses qui étaient portées notamment par le Parti Socialiste. Maintenant, le Parti Socialiste est devenu la petite poupée du macronisme. Ce qui représente, entre guillemets, le plus la gauche, c'est LFI. Je ne suis pas sûre qu'il parle au plus grand monde et au plus grand nombre, et en tout cas, surtout pas aux travailleurs acharnés, aux paysans, aux petits ouvriers, etc. Les macronistes portent des débats européens ou se complètent.
Les macronistes, ils soutiennent qui, là, d'ailleurs?
Martine Vassal.
Le Parti Renaissance soutient Martine Vassal.
Le régional de la Macronie, c'est Renaud Muselier. Donc, Renaud Muselier a tout fait, évidemment, pour pousser la candidature de Martine Vassal. Mais tout le monde n'est pas aligné. Vous voyez bien dans notre édition ce matin, Sabrina Roubache-Agresti, qui est l'ancienne secrétaire d'État à la ville, dit « Je ne me reconnaissais pas dans le projet de Martine Vassal ».
Alors, c'est vraiment une macroniste de la première heure.
Absolument. J'ai préféré ne pas la... intégrer sa liste. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, ouais, en réalité.
Parce oui, mais on voit bien qu'il y a un électorat qui doit aussi se chercher. Il y a un électeur entre Benoît Payan et Martine Vassal, il doit se demander.
Il y a quand même des choses. Et puis, il ne faut pas oublier que pour moi, une élection municipale, ça n'a rien. Je ne vote, moi, par exemple, je ne vote pas de la même manière pour mon maire que pour mon président.
Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Il y a la personnalité de la personne.
Et quand tu regardes ce qui fait vraiment le plus peur aux gens au RN, et ce que je peux entendre, et ce que parfois je pense aussi, le discours ultra radical sur l'immigration, le discours vraiment, vraiment nationaliste qui peut effrayer certains électeurs. Sur le volet municipal, tu peux pas en avoir peur, ça va pas avoir d'incidence. Donc en
Abel
fait,
Boyi,
tu ne gardes du RN que,
oui, sauf que
la protection, la sécurité.
Sauf que le RN a toujours eu un problème d'implantation locale, comme LFI d'ailleurs, ce qui est moins le cas pour les LR et le PS traditionnel.
Mais le RN et avant le FN a toujours convoité la ville de Marseille. Il y a toujours eu des campagnes municipales très violentes. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander sociologiquement par rapport au vote des quartiers populaires. Parce qu'on voit que même le tabou de voter extrême droite, hein, je fais exprès de parler comme ça, est en train de se fissurer, y compris dans ces territoires où on était traditionnellement à gauche, ou dans l'abstention, parce qu'il y a une abstention qui est très forte. Comment ça, est-ce que vous l'expliquez? Parce que notamment, plus on est avancé en âge, plus on réfléchit à la tentation d'éventuellement voter Rassemblement National, même là-bas.
Moi, je crois pas qu'il y ait une particularité marseillaise. Il y a juste un phénomène en France
c'est que national,
tous les candidats observent depuis des semaines. D'abord, aujourd'hui, voter au premier tour pour le Rassemblement National, pour beaucoup d'électeurs, c'est naturel. Mmh. Et ça se dit. Rappelons-nous, on a tous fait des débats pendant des dizaines d'années où on expliquait qu'il y avait un vote caché. Surtout, personne ne sortait du bois pour expliquer que j'allais soutenir tel ou tel candidat du RN. Aujourd'hui, les candidats de droite considèrent qu'on le leur dit. Les électeurs de droite leur disent, dès le premier tour, je vais le faire. Et puis, dans des catégories socio-professionnelles, beaucoup de chefs d'entreprise considèrent que, dès le premier tour, il est préférable de voter pour le Rassemblement National. Parce que là encore, il y a aussi une espèce de lassitude, et d'ailleurs vous entendez bien à votre micro tous les jours, de la vie politique, des partis dits traditionnels, dits de gouvernement. Et donc beaucoup considèrent que ce Rassemblement National-là, c'est moins le cas pour LFI, on voit bien l'actualité qui nous occupe depuis quelques jours, pour le Rassemblement National, ils ont intégré beaucoup de nouveaux élus, de chefs d'entreprise, de cadres. Donc tout ça, évidemment, ça change la donne pour beaucoup d'électeurs, et notamment dans les quartiers.
Mais de ce que vous nous dites, il va quand même y avoir un front républicain, et Benoît Payan devrait en bénéficier. Parce que l'électorat de Martine Vassal va se scinder en deux, en théorie.
Ah, c'est pas évident, c'est là où il y a...
Même si rien n'est sûr, bien entendu.
Quand vous lisez Bernard Sananès, le patron des Labs, il y a un électorat centriste, 8-10%, qui est dans l'électorat de Martine Vassal, qui ne peut pas se reporter sur le Rassemblement National. Donc il se reportera de toute évidence sur Benoît Payan. Et si par ailleurs, Sébastien Delogu, le LFiste, n'est pas à la hauteur du sondage là, mais en dessous de 10, je crois que ce sera beaucoup plus simple pour Benoît Payan de tendre des mains naturellement. Et bienveillante.
Donc, avantage quand même, Benoît Payan, à 7h, à 3 semaines, un mois du premier tour. Merci Olivier d'être venu à la table des grandes gueules et à lire bien sûr La Provence, ce sondage et plein d'autres choses dans ce numéro. On a posé pendant une dizaine de minutes la question sur le compte X des grandes gueules. Est-ce que le RN peut l'emporter à Marseille? Marseille peut-elle tomber entre les mains du RN? Et vous avez répondu oui à 79,6%. Alors, je pense qu'il y en a qui le souhaitent aussi, ça mélange. Il y a le souhait et l'analyse. Dans un instant, on va quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur le front des intempéries. Parce qu'il y a maintenant la tempête Pedro qui est là. Oui, on ne s'en sort pas. Alors à Marseille, on est peut-être loin des tempêtes, mais dans le reste de la France, on a les pieds dans l'eau. On n'en peut plus, ça coûte cher. On est déjà en train d'estimer à 1 milliard d'euros les dégâts causés par ces intempéries. Ça fait 36 jours qu'il pleut non-stop sur la France. On en parle avec vous, avec vos témoignages. À tout de suite sur RMC, RMC Story, BFM Marseille, en direct de Marseille.
Jusqu'à midi,
les grandes gueules.